donc pas une réponse facile à la question que vous posez. Et pourtant, et c'est vrai le premier point de mon exposé, je devrais dire oui. Je devrais dire oui parce que, à partir du moment où on est engagé sur le plan religieux, dans une religion particulière, eh bien, cet engagement doit définir notre identité. Surtout si on est engagé dans une des trois religions monothéistes, que sont le christianisme, le judaïsme ou l'islam, voire même si on est bouddhiste ou adepte d'une sagesse orientale. Parce que la foi religieuse, c'est quand même l'adhésion à quelque chose qui est très profond, à l'ultime, à l'essentiel. Et donc, si on est croyant, a priori, on doit se définir comme croyant et trouver dans sa foi son identité. Je ne connais pas toutes les religions, je ne pourrais que citer ce que dit la Bible à ce sujet. Ce que dit Jésus, « Je suis la vérité, le chemin et la vie, personne n'ira au Père, mais sans doute personne n'ira à Dieu, si ce n'est en passant par moi. » On pourrait multiplier les citations de la Bible qui disent que ceux qui ne sont pas des croyants, des adeptes, des fidèles, sont par nature condamnés, après leur décès, sont des impies, des mécréants, etc. J'imagine que dans le Coran ou les sourates, on trouve les mêmes affirmations. Le monde occidental s'est défini dans son identité comme étant un monde chrétien. Beaucoup d'historiens ont écrit des livres dont le titre, je pense à Paul Venn par exemple, grand historien communiste mais spécialiste des religions, professeur au Collège de France, Paul Venn a écrit « Quand notre monde est devenu chrétien ». Ben, c'était, vous voyez bien que l'identité du monde avait changé après Constantin et Théodose, et que le monde occidental, le monde de l'époque, est devenu chrétien. Il a changé d'identité. Et on voit que les différentes nations de l'époque se définissaient comme chrétiennes. Si Constantin a voulu implanter le christianisme dans l'Empire romain, c'était un peu pour sauver l'Empire, qui était un peu mal parti, qui était en train de se déliter. C'était pour lui trouver une identité, pour reprendre notre formule, qui soit forte. Mais le christianisme ne s'est pas implanté partout comme on l'aurait souhaité, et les juifs sont restés juifs. Et puis, quelques siècles après, Mahomet a créé une dissidence, enfin en tout cas une forte évolution du christianisme, qui a été la religion musulmane. Et là, il y a eu, pareil, la volonté de créer un califat, j'emploie ce terme parce qu'il est revenu avec notamment au XXIe siècle avec les avatars de l'État islamique, créer un califat, ça voulait dire créer un nouvel empire, dont la domination, enfin, qui serait un empire religieux, en quelque sorte, où le calife, le chef des croyants, serait le chef suprême de l'empire. Israël n'a pas eu le même objectif d'expansion, mais Israël, c'était la volonté de trouver une terre promise pour le peuple de Dieu, cette terre, là encore, qui était nécessaire à l'affirmation de l'identité juive, c'est-à-dire de cette recherche très longue avec un Messie qui n'est pas encore arrivé, mais en tout cas cette volonté de l'Éternel de donner à son peuple, après tant d'épreuves, une terre. Et on sait que pour lui c'était essentiel, même Moïse, du fait de ses insuffisances, n'a pas eu le droit d'atterrir, enfin de voir la terre, il est mort en survolant le territoire de Canaan. Donc on voit que ce soit au niveau personnel, je me définis comme chrétien, donc Jésus est mon chemin, et la vérité, et la vie. Ou au niveau collectif, je fais partie d'un empire ou d'une nation chrétienne, et donc, a priori, tout doit être réglé pour être fidèle au Christ, même si Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », on sait quand même que, a priori, les gouvernants étaient des envoyés de Dieu, des représentants de Dieu. Donc, la réponse devrait être oui, sans aucun doute. Mais l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Les religions, certes, ont été essentielles dans l'identité des nations. Et la foi chrétienne, pour ce qui concerne l'Occident, comme la foi musulmane pour les pays d'Orient, ou la foi juive, a été essentielle dans l'affirmation, on va dire, de ce qu'est l'identité des habitants de ces pays. On a eu, dans chaque pays, d'ailleurs, une identité religieuse unique, souvent. Ça a aidé, d'une certaine manière. Mais, quand cette unité a été rompue, eh bien, il y a eu des épisodes sanglants. Je ferai référence ici aux guerres de religion, où effectivement, le roi chrétien catholique n'a pas supporté qu'une partie de son peuple défende une autre religion. Parce que on s'est dit, c'était même pas une religion, c'était une confession. On s'est dit que s'il y avait des protestants qui créaient en France des territoires protestants, il n'y aurait plus de France unie, il y aurait une menace à l'unité nationale. Et Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes en disant « il y a en France un roi, il y a une loi et il y a une foi ». On pourrait multiplier les exemples. Henri VIII en Angleterre a créé l'église anglicane dont le chef était le roi ou la reine. Et on l'a revu d'ailleurs avec Charles III, même si maintenant c'est un peu quelque chose qui apparaît un peu suranné. Charles III a juré sur la Bible devant toutes les télévisions du monde qu'il serait le fidèle serviteur de l'Église protestante telle qu'elle est instituée en Grande-Bretagne. Donc, on se voit au Moyen-Âge, pendant la Réforme, pendant la Renaissance, avant la Révolution, les États se sont organisés sur le fait que dans chaque État-nation, il y avait une religion. Il y a eu quelques exceptions, notamment lorsque il y a eu des cohabitations entre les religions. On parle beaucoup, et à juste titre, de l'Andalousie, de l'Espagne conquise donc par les Arabes, où des sages comme Averroès ou Maïmonide ont coexisté et ont défendu un dialogue interreligieux qui a été assez extraordinaire. Mais c'était plutôt des exceptions. Il y a eu très peu de pluralisme, y compris dans l'Allemagne très proche de chez vous. C'était pareil, c'était un prince. Soit le prince était protestant et les gens étaient protestants, soit le prince était catholique et les habitants étaient catholiques. Et puis, ça c'était vrai au niveau des nations, de chaque nation, mais au niveau international, enfin, ce qui était l'international de l'époque, il y a eu les croisades, et puis il y a eu également la volonté de mettre fin très vite au judaïsme, puisque le peuple juif était pour les chrétiens le peuple déicide, et que donc il y a eu un système de ghetto qui était d'ailleurs plus populaire qu'institué par l'Église, et que nous avons connu dès le Moyen-Âge. Alors les temps ont un peu changé, avec les temps modernes, mais y compris au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, donc à un moment où on s'est détaché de l'obscurantisme qui était lié à la religion et qui faisait que la religion mettait une chape de plomb sur la société, on a dit qu'il faudrait être tolérant. Les Anglais ont dit « soyons tolérants ». John Locke, par exemple, a dit « soyons tolérants ». Et en France, on a abrogé l'abrogation de l'édit Nantes de Louis XIV quand Louis XVI a eu besoin d'argent pour essayer de sauver son régime. Il a pondu un édit de tolérance. Mais l'édit de tolérance, moi, j'aime pas trop la tolérance. Alors je le dis d'autant plus qu'on a beaucoup d'amis chrétiens, par exemple dans des pays d'Orient, et on nous dit, les chrétiens sont, par exemple au Pakistan, tolérés. Mais ce sont quand même souvent des individus de second ordre. On considère que les chrétiens ne sont pas fidèles, par exemple au Pakistan, à l'État pakistanais, donc ils doivent payer davantage d'impôts, ils n'ont pas le droit d'aller dans les mêmes écoles, etc. Même dans des pays, on va dire, qui ont eu une certaine évolution moderniste, cette notion de tolérance qui est apparue en France et en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, eh bien elle a été en quelque sorte, c'était une évolution insatisfaisante. Le vrai progrès, ça a été la fin du XVIIIe avec la Révolution française et finalement la dissociation entre la nation et, pour ce qui concernait la France, le catholicisme qui apparaissait comme dirigé la nation par le roi interposé, roi de droit divin, c'est-à-dire roi placé là par la grâce de Dieu, et imposant à toute la société ses institutions. L'état civil était religieux, donc les protestants n'avaient pas le droit de se marier, enfin, en tout cas, vous savez, ici, pas d'état civil pour les mariages, les baptêmes protestants. L'hôpital était régi par les religieux, et on voyait dans les salles religieuses, on voyait les préconisations de l'enfer, enfin, les plus beaux tableaux, les triptyques sur le jugement dernier sont tous révèlent la volonté d'une certaine église catholique de l'époque de faire peur aux gens, et leur identité même, leur salut dépendait de leur adhésion à la foi et de leur observance des préceptes de la religion. Donc la révolution met fin en France, pendant quelque temps en tout cas, à cette identité et à cette cohésion à la fois entre l'État, l'Église et puis la société, en publicisant tout ce qui était public. Alors ça s'est fait très tardivement, on a mis plusieurs siècles pour le faire, avec l'école, avec l'hôpital, avec l'État civil, avec les institutions, la charité, l'aide sociale, etc. Tout ça a été progressivement publicisé, alors que auparavant, tout était détenu, organisé par l'Église catholique. Mais la Révolution a, et ça c'est une particularité française qui surprend beaucoup à l'étranger, j'y reviendrai parce que je crois que une fois qu'on est en France, même si ici on est un peu dans les bordures de la France, et en France, on ne se rend pas compte qu'à l'étranger, on est parfois scruté comme des individus un peu bizarres, notamment au niveau de la laïcité, parce que la laïcité a été définie un peu plus d'un siècle après la Révolution, qui a été définie comme la séparation entre l'État et l'Église, ben la laïcité en France a été définie comme un peu une hostilité vis-à-vis des religions. Et ça a commencé dès Robespierre, qui suivait Rousseau. Rousseau était pourtant un protestant, mais un protestant extraordinairement libéral, qui a eu autant de problèmes d'ailleurs avec les protestants qu'avec les catholiques. Et Robespierre avait voulu inventer une religion civile, reprenant certains préceptes de Rousseau, avec un être suprême qui n'était pas Jésus, etc., un culte de l'être suprême, mais parce qu'il estimait, c'est important par rapport à notre débat, qu'il n'y aurait pas de cohésion de l'État, pas de cohésion de la nation française, si les Français, les citoyens, ne croyaient pas en une divinité. Parce qu'il disait, en fait, croire en Dieu, croire en une transcendance, c'est indispensable pour ne pas être égoïste. Il est indispensable de croire pour faire du bien gratuitement. Un citoyen ne fera jamais du bien gratuitement, il ne fera du bien que pour lui-même. C'est Rousseau qui le dit, Jean-Jacques Rousseau, là encore un jeune voix, c'est pas très loin d'ici, dans son contrat social, dans la profession de foi du vicaire savoyard, dans l'Émile également, enfin dans tous ses écrits. Et la Révolution française s'oppose aux religions instituées, met en place en fait une culture anti-religieuse. Ça ne va pas durer très longtemps, puisque Napoléon va, avec les concordats, mettre fin à tout cela. Mais ça va durer suffisamment dans les esprits, et ça va être suffisamment repris avec les révolutions successives qu'il va y avoir au XIXe siècle, notamment celle de 48, celle de 70, pour que la France devienne de France. Je dis bien la France catholique, à l'époque les protestants, et c'est plutôt du côté des républicains, on va dire anti-catholiques, mais c'était la guerre des deux Frances. La France catholique, qui voulait le maintien de l'identité française inséparable du catholicisme, avec la morale individuelle très forte, le pater familias, ce conservatisme, on va dire, catholique, associé à l'époque, hein, je ne prends pas de jugement de valeur, il faut toujours contextualiser. Quand on parle, mais enfin, à l'époque, c'est vrai que le catholicisme se définissait comme étant le parti de l'ordre et de la réaction. Et puis, il y avait tous les républicains qui, eux, disaient « Allons de l'avant et construisons un État laïque contre les congrégations, contre le clergé, contre les soutanes, contre etc. » C'était le père Combe. Vous avez vécu cela. Et c'est pour cela que la France s'est coupée en deux en 1905, qu'il a fallu des épisodes d'union nationale comme la guerre de 14-18, où vraiment il fallait mobiliser non pas la moitié de la France, mais toute la France. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, ben, réunissons-nous un peu, après ça s'est un peu adouci, mais enfin, ça s'est adouci mollement, et cette culture a continué, donc, de vouloir créer une identité française opposée, distincte, d'une identité religieuse qui serait finalement progressivement refoulée dans la sphère privée. On disait finalement l'État, la société, enfin, quand on est dans le domaine public, on n'a pas le droit de parler de religion, on n'a même pas le droit d'avoir des signes religieux. Ça date quand même de cette époque. Dans les débats de la loi de 1905, à peu près les deux cinquièmes de l'Assemblée voulaient interdire aux curés de porter de soutane. Et Aristide Briand, qui était un grand orateur, a dit, mais attendez, si on interdit aux prêtres et aux religieuses de porter des habits religieux, ben ils trouveront des couturiers qui trouveront quelque chose pour remplacer les soutanes. Et donc, c'est complètement ridicule, laissons faire le bon sens. Et je crois qu'à quelques voix près, l'amendement avait été supprimé. Donc on voit qu'il y a un siècle, on n'est pas très loin finalement des débats d'aujourd'hui. Alors il y a une région que vous connaissez, l'Alsace, Moselle, qui a échappé en partie à ça parce qu'ils ont pu conserver le concordat et qui n'ont pas vécu les soubresauts de la, on va dire, de la... Enfin, de la préparation de la loi de 1905, la fameuse loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité. Donc on les a un peu épargnés, on a permis un concordat qui ne concerne que les catholiques, les réformer les luthériens et les juifs de subsister avec ce lien entre l'État et les religions. Voici donc, pour ce qui concerne la situation de la France, on va dire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, deux France, une France catholique, très identifiée chez ses leaders, parce que au niveau de la population, on était catholique de père en fils, parce que c'était la tradition, parce que on était finalement né comme cela, et puis qu'on respectait les traditions. C'était une période où le changement était moins brutal qu'aujourd'hui. Donc on était catholique par tradition, par héritage. Chez les protestants, c'était pareil, on était une minorité dans la minorité. Les protestants ont créé des fondations comme la cause. La fondation comme la cause avait un seul objectif. Je connais bien ses dirigeants. C'était que les protestants réformés se marient entre eux, parce que, avec une minorité aussi faible, si un protestant, un jeune protestant s'était marié avec une catholique ou vice versa, c'était fichu. Donc la cause organisait des rallyes, des dîners dansants, etc. Et dans mon église en Amiens, toutes les personnes de mon âge ou d'un âge encore supérieur et qui sont mariées ensemble avaient été mariées par la cause, en quelque sorte. Protection d'une minorité. Pour les juifs, je pense que ça a été en partie pareil, parce qu'ils ont une beaucoup plus forte identité. En plus, eux, ils étaient quand même, ils avaient tellement été martyrisés en France, qu'on comprend qu'ils aient pris quelques précautions et que leur identité religieuse, ils les protégeaient par, on va dire, une identité sociale, une identification sociale très forte. Mais, après 1945, il s'est passé plusieurs choses qui ont transformé notre paysage. La première chose, ça a été la sécularisation de la société, c'est-à-dire la perte d'influence de la religion catholique. En 1960, 97% des Français, les sondages en matière de religion méritent toujours, à mon avis, qu'on les nuance, mais sauf presque tous les Français disaient on est catholique. On ne va pas toujours à la messe parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a le repas du midi à préparer, la chasse, c'est sacré. Mais enfin, on est catholique. Les protestants, c'est un peu pareil. Mais progressivement, les enfants sont moins allés à la messe. Mai 68 est passé par là. Et mai 68 a été le détonateur d'une période de révolution, de sécularisation. On l'a vu aussi au Canada, au Québec. J'ai fait des recherches un peu là-bas. En quelques années, le paysage s'est complètement transformé et la société catholique est devenue une société qui s'est complètement détachée de la pratique catholique, mais aussi de la morale catholique. C'est l'époque où Lucien Neuwirth a imposé la contraception, on va dire, par voie chimique, qui était la première atteinte à la lettre voie naturelle de contraception, puisque dans la morale catholique, la justification suprême, ultime et unique de l'acte sexuel était la procréation. Donc, la loi de Wirth, et après la succession de lois, que l'on doit d'ailleurs un juriste Jean Carbonnier protestant, il n'est pas très bon de ce point de vue-là, mais la succession de lois sur le divorce par consentement mutuel, la loi Veil, etc., et le divorce par consentement mutuel, divorcer pour faute grave, on ne pouvait pas se remarier, et le fautif du divorce était quasiment mis au banc de la société, surtout si c'était une femme, parce que les hommes étaient aussi dans une société patriarcale. Mais à partir des années 60, le droit change, la morale catholique est progressivement, tout ça s'est fait progressivement, abandonnée, et on voit finalement une dissociation entre l'identité, je suis encore catholique, je vais à la messe le jour de Pâques et le soir de Noël, mais finalement, je ne respecte plus les interdits, je ne fais plus le carême, etc. Bon, ben c'est, tout ça est apparu très progressivement. Les plus anciens d'entre nous l'ont vu comme moi, et les plus... c'est apparu progressivement, mais de manière assez inexorable, jusqu'aux lois sur le mariage entre personnes de même sexe. Tout ça a été condamné par l'Église, par les Églises, mais tout ça est apparu comme des combats un peu d'arrière-garde qui ont été perdus. Et le pape François vient d'ailleurs nous dire, moi j'ai rien contre la bénédiction des couples de même sexe. Pas de mariage, mais la bénédiction. C'est ce que font déjà les protestants. Donc, la sécularisation, premier phénomène, aujourd'hui, 50% des résidents de notre pays disent, nous on est agnostique ou athée. Athée, ça veut dire on a vraiment rien à tirer, c'est des conneries, ces religions. Agnostique, on s'en fout. Voilà. 50%. Mais ça veut dire quand même que 49% croient. Mais dans ces 49% qui croient, eh bien, il n'y en a que 5% qui vont dans un culte, pour ce qui concerne les catholiques, 5% qui vont dans un culte régulièrement. Donc on voit qu'entre une vague croyance, oui, je suis de tradition catholique, oui, quand François vient ici, je vais aller à Marseille, je vais pleurer sur la nuit du Prado, ou au stade Vélodrome, parce que quand Notre-Dame brûle, j'ai les larmes aux yeux. Parce qu'il y a une culture catholique, il y a dans mon identité quelque chose qui me fait de la peine, et à moi aussi, protestant, moi j'ai pleuré le jour de l'incendie de Notre-Dame, parce qu'il y avait Victor Hugo, il y avait Nostradamus, il y avait les gens qui avaient souffert pour construire Notre-Dame, les milliers de personnes qui étaient mortes pour Notre-Dame, et tout ça partait en fumée. Donc, on a bien une identité chrétienne, on a bien une racine catholique. Et j'imagine que, pour vous, musulmans, c'est quand même pareil, vous avez participé à la Première Guerre mondiale, la mosquée de Paris vous a été proposée comme moyen de vous remercier des sacrifices, parce que les musulmans, enfin, on les a pas ménagés pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, je comprends que, admettons que la mosquée de Paris brûle un jour, vous serez comme nous, avec Notre-Dame. Vous serez, il y a quelque chose de votre identité nationale musulmane qui disparaîtrait. J'espère que ça ne se produira jamais. Voilà, donc, phénomène de sécularisation très forte. Et puis, deuxième phénomène aussi de l'arrivée en France d'autres religions au-delà de la religion juive. Entre protestants et catholiques, c'est une vieille histoire, on s'est un peu habitué. La cause a trouvé d'autres objets que le mariage des protestants et des catholiques. Avec la sécularisation, les protestants sont mariés avec des catholiques et ça s'est très bien passé. Quoique. Mais l'islam est arrivé et a complètement transformé le paysage. Parce que, au départ, dans les années 60, on accueillait plutôt des travailleurs, des immigrés, qui devaient repartir après la fin du chantier. Peugeot, quand ils avaient, je connais pas Peugeot à Montbéliard, mais enfin, si c'était pareil que le BTP ailleurs, bon, on avait du travail, l'immobilier allait bien, les bagnoles allaient bien, on faisait venir 3 ou 4 000 personnes du Maroc ou d'Algérie, puis après, ils étaient censés repartir. Sauf qu'ils ne sont pas repartis, et que même en période de crise économique, Giscard d'Estaing, qui n'était pourtant pas révolutionnaire, a fait voter une loi sur le regroupement familial. Et donc, Ben, les musulmans, qui sont 5-6 millions, se sont implantés en France avec leur famille pour y vivre, avec parfois l'idée de partir au bled, comme on dit, à la retraite, mais même pas, de moins en moins. Et, bizarrement, ils ont échappé à la sécularisation. C'est-à-dire que ben, ils ont continué à croire à leur religion. Il y a des musulmans qui sont devenus peut-être chrétiens, il y en a d'autres qui sont devenus bouddhistes, il y a aussi des chrétiens qui sont devenus musulmans, notamment avec les mariages mixtes. Mais globalement, y compris chez les jeunes, il y a eu une transmission de la foi musulmane en France. Alors pour plusieurs raisons, les sociologues ont écrit énormément de choses là-dessus, et je n'insisterai pas, mais peut-être aussi parce que c'était une manière de conserver leur identité. Vous savez, j'y reviendrai, dans les bases sur l'identité, mais il y a 30 ans, on ne parlait pas de musulmans, on parlait d'arabes, on parlait des gens du Maghreb. Maintenant, on va parler des musulmans. Et c'est intéressant, cette rupture lexicale, sémantique. Je dois dire que je suis à peu près persuadé que dans les années 70, on parlait des arabes. En termes, des voix parfois un tout petit peu méprisants. Comme on parlait des Espagnols, enfin des Macaronis, on parlait de... bon, etc. Voilà, des Polaques, etc. Maintenant, on va parler des musulmans. Donc, vous voyez, et ça va me permettre d'introduire ma deuxième partie sur les éléments du débat aujourd'hui. À mon avis, ce qui a changé dans cette histoire récente, c'est bien l'installation sur notre sol d'une minorité musulmane, qui est une minorité quand même modeste. Il n'y a pas de submersion, 10%. Il y a eu un accroissement. Mais ces 10% représentent, d'après les sociologues, à peu près un sixième des croyants. Et comme il n'y a pas beaucoup de musulmans en Bretagne ou dans l'Ouest, en Ile-de-France, c'est probablement un tiers des croyants. Et en Seine-Saint-Denis, ou dans les secteurs, on va dire, les plus... les musulmans, enfin les arabes sont les plus implantés, c'est probablement plus de la moitié. Donc, quand vous êtes dans une ville d'Ile-de-France, de la taille de Belfort ou de Montbéliard, où vous avez plus de la moitié des croyants qui ont une foi musulmane différente de la foi chrétienne, on pourrait dire opposée, puisque ce sont quand même des religions monothéistes qui disent chacun, nous avons la vérité. Alors que la France est construite sur la base de racines chrétiennes, là on se dit oui, peut y avoir un problème, parce que là, il y a deux identités religieuses différentes qui coexistent, et qui coexistent non pas qu'une minorité qu'on tolère, les 1% des protestants ou des juifs qu'on va tolérer, parce qu'ils font partie du paysage, on les connaît bien, ils ne progressent pas, mais on va les tolérer là, c'est différent. Est-ce qu'on n'a pas, d'où les débats actuels, sur l'importance de cette identité religieuse? Alors, mon deuxième point va être de dire que l'identité religieuse, à mon avis, elle ne suffit pas, malgré la théorie, malgré ce que j'ai dit au départ, malgré les textes de la Bible, à définir l'identité d'une personne. Pourquoi ? Bon, j'ai quelques arguments, on pourrait en discuter, ils sont très loin d'être imparable. Le premier, c'est que la foi, en 2023, C'est certainement un facteur très déterminant. Moi, je fais partie des gens qui affichent leur foi chrétienne, protestante, mais en pratique, elle n'est pas unique pour définir mon identité. Moi, on me dit, mais qui es-tu? Je dirais, ben, je suis d'abord né en Charente, je suis marié, père de deux enfants, ancien fonctionnaire, et puis je suis chrétien, et je définis mon identité par plusieurs réponses. Et je fais partie un peu des dinosaures à 68 ans. Aujourd'hui, selon un sondage qui a été publié en 2021, seulement 5% des personnes qui se disent croyants placent la religion parmi les trois priorités de leur vie. C'est-à-dire, dit vous êtes croyant, non, je suis agnostique athée, on passe à quelqu'un d'autre. Vous êtes catholique, quels sont pour vous les trois termes de votre identité? Ils vont dire, moi je suis breton, d'abord, breton avant tout. Deuxièmement, je suis homosexuel, par exemple. Et troisièmement, j'adore l'histoire ou j'adore la musique ancienne. La musique classique, la musique de Bach. Ah oui, vous êtes catholique? Ah oui, oui, je suis depuis plusieurs catholiques. Mais bon, je ne l'ai pas classé parmi les trois priorités. Quand même interpellant. 5%. Par contre, si on interroge quelqu'un, vous êtes musulman, quelles sont les trois caractéristiques de votre identité? Eh bien, pas de sondage particulier, mais on va être plutôt entre 40 et 50% qui vont placer leur foi religieuse dans un de leurs trois priorités. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à cela? Probablement, c'est pas si grave, c'est parce que l'héritage catholique pèse chez beaucoup de personnes qui ne vont plus à la messe. Mes parents étaient catholiques, j'ai cette sensibilité catholique, je reviens quand le pape vient, quand Notre-Dame brûle, etc. Mais finalement, dans la vie de tous les jours, je ne pense plus du tout. Dans les religions minoritaires, ou chez les catholiques qui sont fortement engagés, il est certain que les résultats du sondage vont être très différents et qu'on va retrouver, pas très loin, peut-être pas les 40%, mais au moins 20 ou 30% de personnes qui vont définir leur engagement religieux comme étant une des trois caractéristiques de leur personnalité. Mais, donc, si la foi compte aussi peu, c'est parce que aujourd'hui, on est dans un facteur d'individualisation, un facteur, on va dire, de rupture des traditions, où chacun va se définir de manière individuelle, indépendamment de ce qu'étaient ses parents, de ce qu'était son village, d'ailleurs la plupart des gens ont quitté leur village, et indépendamment même de racines nationales qu'on est un peu en train de perdre avec Internet, avec le réseau planétaire. Il y a bien une individualisation des parcours de foi. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire « je suis catholique ». Oui, mais vous êtes catholique intégriste, vous êtes pour François, vous êtes entre les deux, vous détestez François, vous vous trouvez que François est trop conservateur, vous êtes, etc., théologien de la libération. C'est quand même extraordinaire de voir que la parole du pape n'est plus reconnue, y compris dans son église. L'église allemande dit « François ne va pas assez loin ». Et ne parlons pas des tentatives de François. Pourquoi François se maintient-il au pontificat en dépit d'une santé très chancelante? C'est parce qu'il est suffisamment cardinaux, probablement, pour que son œuvre soit poursuivie après sa mort. Donc on voit que le catholicisme est complètement éclaté. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus ennemi d'un catholique traditionnaliste que d'un théologien de la libération catholique. Chez les protestants, on est nombreux à être protestants ici, c'est exactement la même chose. Entre un protestant libéral qui va être fidèle, on va dire, au libéralisme des Lumières, pourquoi ne pas de Rousseau, et un protestant fondamentaliste, il n'y a rien à voir. On n'a pas la même religion. Je suis beaucoup plus près, on va dire, je livre un peu mes opinions politiques, moi je suis beaucoup plus près d'un athée ou d'un musulman que de Trump, qui ose se dire protestant fondamentaliste et qui va jurer sur la Bible, c'est un parjure. Quand ce type-là, quand on sait ce qu'il a fait, il y a peut-être des trumpistes dans le lot, et tu vois, mais qu'un type comme ça ose jurer sur la fidélité sur la Bible, qui dise je suis réactionnaire, conservateur, etc., il a le droit de le dire, bien sûr, mais dire je suis chrétien, non, franchement, non, c'est pas possible. Donc, on voit bien que, et pourtant, ça marche. Bon, on pourrait, et j'imagine que chez les musulmans, c'est exactement la même chose. Alors, évidemment, c'est moins connu, mais on va dire, vous êtes musulman. Ben oui, mais musulman, d'abord parce qu'il y a des différences nationales, si je suis algérien, etc., marocain, ben ça va pas très fort ensemble, et puis est-ce que je suis soufi, est-ce que je suis... Alors on va dire, tous les salafistes sont à mettre dans le même sac. Enfin, ceux qui connaissent un tout petit peu l'islam savent qu'il y a des salafistes qui, effectivement, sont un peu représentants de nos catholiques traditionnalistes. Mais ça n'a rien à voir avec un terroriste. Et donc, on dit d'une religion dont on a peur, mais il y a la même, à mon avis, la même séparation. Donc, on a cette individualisation de la foi. Donc, il ne suffit pas de dire « je suis catholique » pour me définir, parce que après, je suis catholique comment, en quelque sorte. Je suis catholique breton appartenant à la paroisse Saint-Médard à Vannes, et je suis dans l'opposition au curé que je veux faire partir, j'ai vu l'évêque d'ailleurs à ce sujet. Oui, en fait, je suis moi, quoi. Je suis catholique joubertien, ou protestant joubertien, je m'appelle Joubert. Hein. Mais finalement, il y a une individualisation de toutes les personnes. Et puis deuxièmement, ben, je l'ai dit, quand on dit être catholique, moi j'ai dit, vous connaissez dans le discours, la France est une nation chrétienne. Et d'ailleurs, on a voulu mettre dans la constitution de la constitution européenne, qui a été rejetée en 2005 par référendum, on avait voulu à un moment instaurer, dire que l'Europe avait des racines chrétiennes et devait être fidèle à ces racines chrétiennes. Je pense que même les musulmans auraient pu accepter cela. Parce que, au fond, c'est bien qu'on est musulman, et quand on arrive dans un continent ou un pays, ben de respecter les racines de ce continent. Mais ça n'a pas été accepté en France au nom de la laïcité. Chirac s'était violemment opposé. Et puis, il y a une seconde raison aussi, c'est que dire j'ai des racines chrétiennes. Alors, je l'ai dit un peu avec Trump, mais j'aurais pu le dire avec Maurras. Maurras, et si vous regardez Wikipédia, le grand, Charles Maurras, le grand intellectuel catholique du début du XXe siècle, c'est-à-dire défenseur des valeurs catholiques, défenseur de la foi catholique. Sauf que Maurras n'était pas du tout catholique. Il n'était pas croyant. Il disait, pour moi, je n'ai pas la foi. Mais je défends les valeurs catholiques parce que c'est mes valeurs. C'est les valeurs de mon pays, c'est les valeurs de tradition auxquelles je crois. Et ça, on le trouve chez beaucoup de personnes qui vont dire ben « je suis musulman parce que je me sens finalement rejeté par mon discriminé. » Et donc, ben oui, puisque ma religion est discriminée, par solidarité, je vais me déclarer musulman. Et je vais me comporter comme un salafiste, même si en fait, je me fiche complètement dans mon fort intérieur de cette religion à laquelle je n'adhère pas. Et puis c'est pareil chez les juifs. Souvenons-nous quand même de la situation en 1945, où les juifs étaient peu croyants, étaient des défenseurs acharnés de la laïcité en France et ailleurs, et où beaucoup étaient même antisionistes, c'est-à-dire, il faut savoir que la création de l'État d'Israël a été fortement discutée, non pas par les États arabes, qui étaient évidemment contre, mais y compris au sein de l'ONU, y compris au sein de l'Angleterre, qui était complètement opposée. Parce que ce n'était pas évident. Donc on a confondu, d'une part, anti-sionisme et anti-sémitisme. Et puis, deuxièmement, les Juifs se sont tellement sentis menacés par l'anti-sionisme de grande partie de, on va dire, de l'opinion, qu'ils sont devenus religieux, fondamentalistes, pour défendre leur identité. Et aujourd'hui, on le voit, alors qu'Israël a été dominé politiquement par les travaillistes, Golda Meir, enfin, tous les grands leaders israéliens étaient des travaillistes, maintenant, probablement que dans 5 ou 6 ans, ce sera les partis religieux israéliens qui seront au pouvoir en Israël. Netanyahou n'étant que le dernier laïc, finalement, à exercer cette fonction. Donc on voit que la foi religieuse, non seulement elle est individualisée, mais que et on a du mal à la séparer d'une certaine identité culturelle. Vous voyez, est-ce une identité religieuse, un parcours de foi, une foi, ou est-ce une identité culturelle, une fidélité à des racines qui n'ont que de lointains rapports avec la foi? Puis deuxièmement, il y a aussi la morale, qui est maintenant une morale individuelle. Je crois que quand on voit le combat qu'il y a eu à l'époque de Simone Veil pour rendre possible l'avortement, dans des conditions très déterminées, qui ont été progressivement allégées, quand on voit que Simone Veil a été quasiment mise au bûcher, que Giscard d'Estaing a failli perdre sa présidence à cause de ça, et puis que maintenant, tous les ans, on va finalement créer un droit à l'identité sexuelle, droit à l'identité de genre, droit à changer au changement de sexe, droit à la PMA, bientôt à la GPA, etc. On s'aperçoit que l'identité est devenue complètement plurielle et que le droit de disposer de son corps, le droit de s'identifier soit à son sexe, le féminisme, soit à un genre que l'on crée soi-même, devient beaucoup plus fondateur d'une identité que ce qui fondait auparavant les identités comme la religion. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la loi Taubira, vous avez cité juristes, eh bien, j'ai rencontré des associations chrétiennes gays, comme on dit, du style David et Jonathan, interprétation de la Bible selon laquelle David aimait Jonathan, ils ont été aimés de Dieu, malgré le fait que... Bon, je ne suis pas sûr que David aimait Jonathan, mais en tout cas, ça a été David et Jonathan. Eh bien, cette association va plus se définir par son identité homosexuelle que par sa foi religieuse, qui n'est quand même que seconde par rapport à la première identité. Donc on voit que ce deuxième facteur de multiplication, d'individualisation des identités, fait que on a du mal finalement à faire le tri entre une identité religieuse qui a perdu globalement de l'importance, sauf chez les fondamentalistes de tous bords, ou alors des personnes raisonnables mais très engagées, l'archevêque ou l'évêque de Belfort, je suis d'abord chrétien, les clercs, des personnes qui vont aller, enfin, des personnes extrêmement pratiquantes en quelque sorte, des fondamentalistes culturels, politico-culturels, donc des minorités finalement, personnes de plus en plus minoritaires, mais autrement, une multiplication des formes d'identité. Cela va entraîner des perturbations sociales assez importantes, parce que ces personnes-là vont aussi vivre un discours de plus en plus radical et des oppositions de plus en plus heurtées. Tout simplement parce qu'il y a une volonté aussi d'affirmer les identités. Le féminisme est une grande victoire, mais il est probable, disent beaucoup de sociologues ou de psychologues, qu'une affirmation outrancière du féminisme entraîne des réactions en chaîne. Il en est de même pour l'affirmation des droits LGBT+. Auparavant, il faut quand même dire que on était dans le domaine du refoulement. Il y a toujours eu, d'après les psychologues et les médecins, entre 5 ou 10% de la population qui ont des pulsions, qui ont des tendances, qui ont des traits, on va dire, homosexuels. Il y a peut-être des médecins ici qui pourraient me démentir, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'affirment. Mais avant, on ne le disait pas. On avait une vie familiale normale, en quelque sorte. Donc, ce n'était pas formateur d'identité, c'était un vice, comme le dirait, qu'on cachait, et c'est encore valable dans le pays de l'islam, d'autant plus qu'il y a ce problème des relations sexuelles avant le mariage. Mais, maintenant, on affirme cela, on affirme des fiertés. Alors après, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait une exacerbation des tensions sociales liées à cette exacerbation de l'affirmation des identités. Et il ne faudra pas s'étonner si les religions sont refoulées au niveau de l'intime, de ce qui est interdit, de ce qu'on ne peut pas parler en public, il ne faudra pas s'étonner, à mon avis, qu'il y ait aussi une réaction en chaîne, puisque seuls auront le droit de parler ceux pour qui la religion représente l'essentiel de leur vie, mais ils ne représenteront pas l'essentiel de leur communauté. Et donc, cette situation de sécularisation, d'individualisme, d'exacerbation de la liberté individuelle et des droits à, le droit à l'enfant, par exemple, qui semble parfois même, j'ai le droit à avoir un enfant. Ben oui, mais l'enfant, il a aussi des droits. Et est-ce que vous êtes sûr que votre droit à avoir un enfant concilie le droit de l'enfant à avoir une éducation normale ? Il faut aussi peut-être, dans cette exacerbation de l'individualisme, se poser cette question de la conciliation, de la compatibilité entre les droits des uns et des autres. Et c'est pour ça que, pour terminer, je voudrais donner quelques perspectives un peu plus optimistes, on va dire. Enfin, je vais essayer, parce que je ne suis pas particulièrement optimiste, mais enfin, quelques moyens pour en sortir. Je crois que le premier, c'est de lutter contre la dissémination des groupes et des communautés religieuses. Je l'ai dit, même les institutions les mieux établies, comme l'Église catholique, sont actuellement en train de se décater. Mais est-ce qu'on a intérêt à avoir une association catholique du quartier de la Maison du Peuple de Belfort, complètement indépendante du pape, de l'évêque, du curé de Belfort, etc. Ça sera la liberté. On va affirmer la liberté. Oui, mais est-ce que est-ce que les patrons de cette association catholique de la Maison du Peuple de Belfort, est-ce qu'ils auront une formation religieuse? Est-ce qu'on ne va pas tomber sur un fanatique ou un beau parleur qui va entraîner tout le monde? Moi, je dois dire, en tant que protestant, et fier de l'être, je trouve qu'il y a quelque chose de bien dans la hiérarchie catholique. J'aime bien François. Je préfère François, à un catholique comme Charles Maurras, par exemple, parce que François me rassure. Et chez nous, protestants, on a beaucoup de mal à s'unir. Nous, on s'en est... Alors on disait, on est d'accord sur rien, sauf sur l'essentiel. Mais en fait, on se regroupait essentiellement contre les catholiques. À partir du moment où les catholiques se disloquent eux-mêmes, ben, j'ai un peu peur que finalement on se dise qu'on n'a rien à faire entre nous. D'ailleurs, les évangéliques, beaucoup les évangéliques, il peut y en avoir ici, mais ont pris leur indépendance quasiment par rapport à l'Église protestante unie. Et au sein de l'Église protestante unie, il y a les attestants, il y a les libéraux, il y a les orthodoxes, et y compris au sein de mon Église. C'est pas terrible entre nous. Les libéraux disent on va s'en aller, les attestants disent mais le pasteur n'est pas bien, etc. Donc finalement, moi je trouve que c'est dangereux. Que si entre nous, c'est-à-dire une communauté de foi, je prends l'exemple pour la communauté de foi catholique de Belfort, hein, j'en prends pas d'autres, on n'est pas capable de parler, de s'unir, de se dire on va discuter entre nous, on va pas s'engueuler, on va pas partir. Si on n'est pas capable de faire ça, ben c'est quand même que la société est dans un mauvais état. Donc moi, mon premier conseil, ce serait de dire dialoguons au sein de notre communauté religieuse, évitons les dislocations. Moi, je milite pour l'union du protestantisme uni de France, parce que je suis protestant, et j'invite les croyants d'autres obédiences à faire de même, parce que c'est quand même plus on est nombreux, plus on est finalement équilibré en quelque sorte, parce que plus on va avoir des expériences différentes, plus on va avoir des gens qui vont dire ce que tu dis est bien, mais tu as oublié quelque chose qui est important. Tu ne vois que le bout de ta lorgnette personnelle, ton horizon personnel, ta situation personnelle. C'est vrai que tu as beaucoup souffert, c'est vrai que tu as eu un patron dégueulasse, etc. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Moi j'ai une autre expérience, je veux te la communiquer. Et ton identité, en quelque sorte, pour revenir sur l'identité, tu t'es mal bâti, et je pense que tu peux en changer. Deuxièmement, je pense qu'il faudrait évidemment le faire pour les musulmans. L'État l'a toujours fait. Alors l'État dit on ne reconnaît pas les cultes. Sauf que, alors, et c'est l'article 1er de la Constitution, l'État français est un État laïque. Et il ne reconnaît aucun culte. Il ne salarie aucun culte. Sauf que, quand on veut unir les cultes musulmans, on le fait à l'Élysée. Et c'est Macron qui tient quasiment la plume. Et après, on s'étonne qu'il y a évidemment ben, des gens à l'Élysée, les gens disent oui, monsieur le président, et puis dès qu'ils sont partis, ben, ils disent on n'est pas d'accord, évidemment. Donc, mais malgré tout, je pense que, bon, enfin, moi je souhaiterais qu'il y ait au moins un groupe qui soit à la fois représentatif, et c'est le cas, parce que tous les deux ans, les musulmans arrivent à créer une confédération, mais qui soit solide, qui soit représentatif, qui ait de l'influence, qui ait du pouvoir, et qui arrive à avoir un rôle dans la société. Et que ça ne soit pas la mosquée algérienne de Paris, ou qui prenne le pas sur les autres à Paris, et puis à Saint-Denis, ça va être, je ne sais pas, je connais bien, mais par exemple les Marocains, parce que sinon, ben, il va y avoir des tensions qui vont demeurer. Donc, mon premier conseil, c'est l'unir pour avoir une identité musulmane belfortaine ou parisienne, ou catholique parisienne, ou juive de Spinacienne. Épinay-sur-Seine est une ville où il y a beaucoup de juifs, je près de chez moi. Voilà, qui représente, qui soit assez large pour être une identité un peu collective. Une identité individualiste, moi je n'aime pas trop. Deuxième conseil, et c'est très proche de l'association qui nous réunit, ben c'est de mieux comprendre, connaître le fait religieux et dialoguer entre les religions et entre les confessions. Parce que je fais deux constats. Un, ben on ne connaît plus le fait religieux aujourd'hui. Nos petits-enfants, par rapport à l'âge de la plupart d'entre nous, nos enfants, connaissent-ils les fondamentaux de la religion catholique? Non, 95% ont leurs racines. Même les petits-enfants ont du mal, parce que mon fils a rompu avec la foi, et j'ai beaucoup de mal à le maintenir. On oublie progressivement. Mais les gens de ma génération avaient suffisamment de culture personnelle pour savoir qui était Marie, qui était Jésus. Et maintenant, je dirais, c'est pire, on oublie qu'on a oublié ou qu'on est en train d'oublier. Et je citais à RCF cet après-midi une anecdote, moi, qui m'a bouleversé. J'étais à la cathédrale de Noyon, et pour regarder, j'étais plutôt allé au musée Jean Calvin. Enfin, la cathédrale de Noyon est très belle, donc j'y étais allé. Et il y avait la directrice d'une école, d'un collège, de, je crois, de Saint-Denis, donc 98% des élèves qui étaient là étaient musulmans, évidemment, arabes, musulmans, et la directrice du collège était, il avait donc 13-14 ans, elle était européenne, style européen. Elle dit, madame la directrice, c'est qui la dame qu'on voit tout le temps? Pas vous poser la question. Alors, c'est Marie. Ah bon, madame. Ah, mais qui c'est Marie? Alors, Marie, c'est la déesse du christianisme. Alors, c'est la déesse, c'est la mère de Dieu. C'est la mère de Dieu. Ah oui, mais... Ah oui, la mère de Dieu. Et alors, le petit bébé, là, qui est là. Alors, lui, c'est Jésus. C'est le fils de Marie. Ah mais, madame, mais alors, mais vous avez dit que Marie, c'était la mère de Dieu. Ah oui, mais c'est un peu différent. Je vous assure que je porte le trait naturellement, mais que je ne mens pas. Je ne mens pas. Oui, Jésus, c'est différent, c'est pas Dieu, s'il a été, il n'y a pas, pour les catholiques, Jésus est né par un miracle. Il est né d'un miracle. Donc, vous voyez que c'est une personne qui était sincère. Il n'y avait pas du tout d'hostilité apparente vis-à-vis des religions. Une enseignante, certainement une excellente enseignante, qui faisait d'ailleurs de l'enseignement du fait religieux. C'est souhaité, ben oui, c'est le programme lié à la loi Debré, enfin, au rapport de Régis Debré. C'est une instruction que l'on fait au nom de l'État. Eh bien, on se rend compte que on n'a plus la culture de le faire. Alors, c'est peut-être un cas exceptionnel, vous voyez, mais je ne pense pas. Et malgré, et en France, on a voulu faire de l'enseignement du fait religieux une priorité, y compris dans l'école publique. Mais c'était 2001. On a fait ça à cause des événements du 11 septembre 2001 à New York. Le problème, c'est qu'après, les enseignants ont quand même plutôt des laïcards revendiqués, on dit les programmes sont surchargés, c'est trop fatigant, et puis on a des enfants, puis nous on ne connaît pas les différentes religions, on connaît un peu le christianisme, alors parler de l'islam, on ne veut pas faire venir des religieux dans les établissements publics, puis après il y a eu l'affaire Tati, alors si on dit un mot de trop, qu'on risque de perdre la tête, on va quand même, ça devient pénible, puis il y a eu aussi des affaires où on a, par exemple, des instituteurs, parce qu'ils ont fait un enseignement trop religieux, pas assez objectif, ont perdu leur poste, parce qu'ils ont buté sur l'hostilité des parents. Donc, l'enseignement du fait religieux, même s'il a progressé en France, ne suffit pas à donner le minimum de culture religieuse qu'on doit avoir, à mon avis, en termes culturels en France. Donc moi, vraiment, je pense qu'il faut que la société se mobilise pour faire connaître les religions, même si ce n'est pas dans un objectif de convertir, mais au moins, on ne nous accusera pas de dire, par exemple, il faut bien connaître les Beatles, ils ont écrit des choses extraordinaires, ou connaître les trésors de nos palais, etc., ou connaître les règles du football et du rugby, surtout au moment des Coupes du Monde. On ne nous accusera pas de ça, parce que sinon on meurt idiot. Moi, si je vois tous les matchs de rugby, parce que mon fils adore le rugby sans connaître aucune des règles, je m'ennuie, je perds quelque chose. Donc, au moins que les religions soient connues un peu comme le rugby ou le football, vous voyez. On peut au moins se dire ça. Et je crois que c'est moins à l'école de le faire qu'à la société dans son ensemble. Et probablement aux associations, comme celle qui nous accueille ce soir, Et vraiment, je pense qu'il faut que la société se mobilise pour sortir le religieux de, on va dire, de cet état de, où il est actuellement, de refoulement. Quand on était refoulé parce que auparavant l'Église catholique dominait tout, parce que quand on voulait se faire soigner, c'était la sœur qui nous faisait la piqûre, quand on voulait aller à l'école, on allait à l'école catholique, quand on mourait, on allait à l'hospice et on voyait les triptyques du jugement dernier, c'était pas très grave, on avait la culture religieuse. Et maintenant, on n'a plus rien. Donc, au moins, il faut remplacer ce rien par quelque chose. Sinon, je pense qu'on perd quelque chose, parce qu'on aura toujours les croyants qui représentent quand même une portion importante de la population parmi nous. Et si on continue, nous, dans le christianisme, à se séculariser, on aura une majorité de croyants qui ne croiront plus au même Dieu que celui de nos racines françaises. Et donc, je pense que là, actuellement, il y aura effectivement un vrai problème. Donc, il faut se mobiliser. Et il faut se mobiliser aussi pour l'interreligieux. Je donnais l'exemple de la méconnaissance totale de l'islam. Et moi, je ne la connais pas, l'islam. Je le dis très franchement, très peu. Je la connais pas mal, un petit peu. Mais pas suffisamment pour en parler sérieusement. Mais entendre dire que la Bible, il n'y a que des... J'ai que des bonnes choses dans la Bible et que des mauvaises choses dans le Coran, mais c'est ridicule. Je connais la Bible très bien, je peux passer une heure à lire des choses horribles écrites dans la Bible. Et horribles. Et notamment une qui concerne notre identité. Jésus a dit, si vous ne haïssez pas votre père, votre mère à cause de moi, vous n'irez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il a dit, construisez votre identité uniquement sur moi, sur l'amour de Jésus. Haïssez votre mère, il n'a pas demandé ça, mais il a dit, oubliez votre mère, oubliez votre père. Moi, Marie, je m'en fiche, d'ailleurs, dégage, il lui a dit à un moment. Va-t'en, moi je suis là, je fais ce que mon père, le Dieu, a demandé, pas Joseph. Hein. Donc, si on interprète ça littéralement, à ce moment-là, je reprends des exemples du Coran aussi, mais c'est pas, vous voyez, je veux dire, et puis Dieu qui demande des destructions de vie entière parce qu'elles ne lui ont pas été fidèles. Bon, tout ça, je veux dire, il faut qu'on soit capable de connaître, pas de manière intime, mais de dialoguer entre religions pour que des bêtises comme celles que je viens de dire ne soient plus possible, ou en tout cas qu'elle diminue d'intensité. Connaître, c'est pour moi le début de la sagesse. Et puis troisième mini-recette, c'est de réfléchir à ce concept d'assimilation qui nous semble définir la France. On dit en France, on est basé sur l'assimilation. Tout le monde doit avoir le même visage, tout le monde doit être un citoyen interchangeable, un peu comme un petit pois. Et l'intégration, ça ne suffit pas. Alors, c'était possible dans des pays qui vivent dans des pays totalitaires. La Chine de Mao, tout le monde avait le même costume, on était assimilé, tout le monde était communiste, on était là pour construire une société idéale. C'était l'idéal de la France de Robespierre, ou de la France républicaine à certains moments. Mais on a glissé en France vers l'intégration. C'est-à-dire que on a dit, bon, l'assimilation n'est jamais possible totalement. Il faut que les étrangers s'intègrent sur le territoire national, qu'ils respectent leur pays, le pays d'accueil, mais on ne va pas leur demander d'assimiler 100% de la culture française. On va respecter leur culture. On respecte bien la culture corse. Le président de la République veut même modifier la constitution pour ça. La culture corse, elle a, il y a peut-être des Corses ici, mais elle a aussi, je pense, ses travers, ses difficultés, notamment en matière fiscale, par exemple. On va respecter ça. Bon. Alors moi, je suis breton d'adoption. Maintenant, il n'y a plus un nom de rue qui n'est plus écrit en breton, etc. Donc, on va respecter l'identité bretonne. Ben, je pense qu'on peut respecter l'identité d'une ville comme Stein qui est à 60%, 80% habitée par des musulmans. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu'il faut donner place au communautarisme. Comme on trouve par exemple en Grande-Bretagne, où on va dire, ben on va faire de Stein, par exemple, on va faire un ghetto musulman, par exemple, plutôt salafiste, parce que les gens, ça, plutôt salafiste, on va, le maire, pour être élu, on va mettre un en milieu musulman qui va donner les clés de la ville aux musulmans, et puis on va en faire une enclave dans la République. Ça, c'est le communautarisme, et il faut, c'est l'éclatement aussi de la société française. Par contre, je veux dire qu'on s'inquiète qu'une ville comme Stein soit à 60% musulmane et soit avec qu'il y ait des prières de rue, qu'il y ait des boucheries halal, etc. Et on en trouve. Ben moi, c'est une opinion personnelle, moi ça ne me choque pas. Le véritable problème, c'est qu'on a concentré les populations pauvres, dont beaucoup sont arabes et musulmanes, mais dans certains secteurs. De l'Île-de-France, de la région lyonnaise, peut-être Mulhouse, etc., Belfort peut-être aussi, on a concentré la pauvreté en quelque sorte, et là, c'est un autre problème, et c'est très difficile de faire autrement. J'ai été local pendant 20 ans, j'ai fait de la politique de quartier, j'ai un peu progressé, mais très modestement, parce que la pauvreté est restée, parce que les questions culturelles sont restées. Donc j'ai un peu l'impression que cette volonté en France qu'on a d'assimilation, elle est excessive. Et qu'on devrait définir, peut-être collectivement, et là encore le rôle des associations, le rôle de la société est important, plutôt des normes d'intégration. Alors je vais donner un dernier exemple, je ne peux pas terminer sans donner cet exemple, c'est évidemment celui des habits religieux, du costume. J'ai commencé par parler des habits des curés catholiques. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on est en train d'avoir un peu la même dérive avec les débats qui prennent une importance énorme sur la baïa, par exemple, ou sur le burkini. En France, alors c'est peut-être un vieux con qui s'exprime, mais on va dire qu'on a un droit à aller sur une plage publique pour une femme en monokini, voire même, enfin que c'est un droit que c'est même parfois, on a même un peu l'impression d'être un peu vieux jeu, si on a un maillot de bain. Est-ce que, alors c'est un droit moi que je respecte, hein, j'y suis tout à fait, j'ai une petite fille, bon je lui dis quand même, attends, prends pas trop de risques, tu as 13 ans, je trouve que tu as des tenues un peu indécentes, elle me dit t'es un vieux con, mais est-ce qu'on peut refuser à une femme le droit à une certaine pudeur, c'est-à-dire à dire, moi, tant sur le plan personnel, parce que bon, je ne me sens pas très à l'aise avec mon corps, je préfère avoir un habit, ou alors par rapport à ma coutume culturelle, ou par rapport à ma religion, même si je crois que le Coran ne dit rien sur la baïa. J'ai le droit, est-ce que je ne peux pas avoir le droit de porter un burkini sur une plage, par exemple, ou d'être complètement vêtu sans que des censeurs viennent me voir ou des policiers me dresser un procès verbal. Je force là encore un peu le trait, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que à l'étranger, notre position n'est absolument pas comprise, absolument pas. Et il ne faut pas aller très loin. Je ne parle pas de la réaction de la rue à Alger ou à Casablanca, qui n'est pas très favorable. Mais je pense à celle de Zurich, voire d'aller à Francfort, ou aller à Londres, où finalement vous voyez une société anglaise qui, finalement avec un premier ministre hindou, qui jure fidélité devant la reine ou le roi, qui s'agenouille. Mais bon, on critique beaucoup la société anglaise en disant ben, quelle société impossible, insupportable, qui est au bord de l'éclatement. J'attends l'éclatement. Je n'ai pas l'impression qu'en France, on soit très exemplaire en termes de cohésion sociale. Ça, c'est la première, je veux dire, en termes d'assimilation. Moi, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas mis le curseur trop haut? Est-ce qu'on ne veut pas? Et alors, vraiment, imposer aux autres un modèle qu'on n'assume pas pour soi-même. Très franchement, moi, je pense que là, il y a une réflexion collective à mener. Et puis, le deuxième point dans cette culture française qu'on veut imposer, c'est quand même un excès de laïcité, c'est-à-dire une laïcité non seulement on ne parle pas de religion, mais où il est de bon ton de démolir les religions. Alors c'est un peu l'aspect Charlie Hebdo que je voudrais en termes quand même très prudents traiter. Moi, je n'ai jamais dit Charlie Hebdo parce que je n'aime pas qu'on insulte les religieux, comme on l'a fait. Alors les catholiques en ont pris le pli. On peut mettre l'ancien pape, Benoît XVI, n'était pas aimé de Charlie Hebdo. C'est, il faut voir, dans toutes les semaines, il avait droit à une caricature épouvantable, en fait, une croix, rentrée. Bon, les catholiques trouvent, c'est normal, c'est la France. Moi, j'étais quand même un peu choqué. Et maintenant, on va, du fait de l'horrible attentat de Charlie Hebdo, condamnable, on va mettre ça en ordre. On va dire on ne peut rien interdire. Rien interdire, sauf que la loi française a interdit la lutte contre l'homophobie, un propos homophobe, est pénalement condamnable. La députée de LFI qui a parlé en termes injurieux, elle est condamnable sur des homosexuels, elle est condamnable, j'ai oublié son nom, Sophia Chipsou, elle est condamnable sur le plan pénal. L'antisémitisme est condamnable, pour des raisons que je comprends également tout à fait. Mais le droit d'insulter une religion n'est pas condamné, au contraire, un peu mis en exergue. Et ça fait partie de la civilisation française. On ne doit rien dire. Et là, je pense que c'est un excès de laïcité sur lequel, je crois, il n'y a pas de loi à faire. On ne doit pas interdire. Ça ne sert à rien d'interdire. Mais je crois qu'on doit réfléchir et probablement, dans le dialogue, dire à Charlie Hebdo, il y a des dessins qu'on aime, y compris sur Mahomet. Quand on dessine Mahomet et que Mahomet dit il y a des cons partout, ben moi je trouve que le dessin il est bon. Désolé. Mais il y en a d'autres qui sont nettement moins bons. Et donc il faut probablement que notre société française laïque respecte mieux les religions parce qu'elle les connaît mieux et ne trouve pas son identité, pour finir avec ce terme, dans un, on va dire, un refoulement du religieux qui ne pourra aboutir, à mon avis, qu'à des conflits et à des drames. Merci de votre attention.